blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Raphaël Guillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, vous venez de publier un troisième roman policier en quête de l'inspectrice Alice Gignier. Ça se passe chez nous, on va en parler bien sûr. Vous faites partie de ce renouveau du polar roman hein, qui place ses intrigues dans nos régions. Un arrière-goût amer paru dans la collection thriller des éditions Favre. On va en parler, on s'est donné rendez-vous. Je demande toujours à mes invités de choisir le lieu. Vous avez choisi Radio Chablais, pourquoi ?
Parce que Radio Chablais, ça fait partie de mon passé. Il y a 40 ans, on peut le dire. Il y a 40 ans, j'ai fait 2 mois ici. C'était mes débuts de journaliste audiovisuel, je dirais. Après une expérience un peu différente qui s'appelait La course autour du monde, qui était un concours de reportage des TV francophones. Mais mon entrée dans le métier s'est faite en tant que journaliste libre. Je travaillais pour plusieurs journaux. Et ma première expérience audiovisuelle, radiophonique en tout cas, c'était ici à Radio Chablais. J'ai fait le premier flash d'information de cette antenne, je crois.
Nous célébrons nos 40 ans cette année, 2024, 1984. Et en effet, hein, Pierre Allaitre, notre mémoire... mémoire de la radio m'a appris à moi en tout cas que vous aviez été en effet la première voix, pas la première voix tout court, hein, il y a eu des animateurs qui ont ouvert l'antenne, mais la première voix d'info. Voilà, j'imagine que vous l'aviez oublié ce détail-là, mais 40 ans après, ça veut dire quelque chose ?
Ah oui, c'est un souvenir de... Bah de longue durée, mais qui est resté quand même très fort parce que j'ai appris plein de choses ici à Radio Chablais. J'ai fait le tout premier flash d'information. Je me souviens qu'il y avait eu un incendie à Lézin dans le tout premier flash d'information. Mais je me souviens aussi que j'avais des journées pas possibles puisque j'allais faire des reportages au MOS, au Diableret. Ensuite, je venais les monter après avoir fait la matinale.
C'était la belle époque de la bande encore.
Hein, exactement.
Ça, nos auditrices, nos auditeurs ne se rendent peut-être pas compte de ce que c'était. Fallait couper-coller.
Exactement. L'époque du Nagra, on coupait nos reportages. Ça, je le faisais l'après-midi. Et puis ensuite, j'allais dormir un petit moment à la piscine, ici à Montet. Et puis le soir, j'allais faire un petit reportage au Montreux Jazz, par exemple, puisque c'était l'été. Et je rentrais dormir chez moi. Et je revenais à 3-4 heures du matin pour présenter la matinale.
Participer à la création d'un média. Hein. Moi, ça m'est arrivé, pas en Suisse, mais ça m'est arrivé. C'est quelque chose d'assez émouvant.
Ah oui, on sentait qu'il y avait une belle émotion dans la région. Les gens étaient contents qu'on parle de leur région. C'est toujours le cas, hein, mais beau souvenir, vraiment. Mmh.
Vous avez évoqué la course autour du monde. Je pose un peu toujours la question de l'étincelle hein, qui fait qu'une vie prend un chemin plutôt qu'un autre. Le journalisme, reporter, aller voir le monde comme ça, vous vous souvenez de l'étincelle ?
Oui, je pense que l'étincelle, c'est venu du fait que mon père avait une boucherie à Villeneuve, dans le Chablais, ici, pas très loin. Et j'étais, pour gagner un peu d'argent l'été, je faisais les livraisons. Pas seulement l'été d'ailleurs, presque toute l'année. Et je pense que de faire
parfois
des livraisons...
Parfois vous alliez jusqu'à Réna et ça vous a donné le goût de l'aventure,
ouais,
c'est ça ?
Mais surtout d'entrer chez les gens.
Ah oui.
D'entrer chez les gens, de voir des univers différents. Il y avait des gens pauvres, il y avait des gens riches. On amenait la viande un peu partout. Et il y avait du contact, il faut dire bonjour. Je viens vous amener là, donc il faut frapper à la porte. Et je pense que c'est un peu mes débuts dans le journalisme.
Aller à l'autre.
Exactement. Mmh.
Bon, vous avez évoqué la course autour du monde. Alors là, les moins de 20 ans, hein, comme dit la chanson d'Aznavour... Bon, c'est même un peu plus que ça. Hein. Moi, je m'en souviens, c'était un programme des radios publiques francophones. Hein. Il y avait des Canadiens, des Belges, des Français, des Suisses. Racontez-nous un peu cette aventure-là.
Oui, ça fait plus de 40 ans. C'était donc avant Radio Chablais. Je m'étais inscrit, j'étais en lettres et j'avais envie de... Je regardais tous les samedis soirs cette émission à la RTS. Quand on l'a ratée, on pouvait la voir sur, non pas France 2, mais Antenne 2 à l'époque, le dimanche soir.
Donc elle passait un peu avant dans les petits pays. Hein. C'était ça le deal, en fait, des radios. Des radios et télévisions francophones.
Exactement, et puis c'était très populaire parce qu'il y avait beaucoup moins de chaînes qu'aujourd'hui, et surtout parce que les gens à l'époque ne voyageaient pas autant qu'aujourd'hui et ne filmaient pas autant. Le principe, c'était d'envoyer donc des jeunes individuellement. Il y en avait deux par pays, deux pour la Suisse, deux pour la France, deux pour la Belgique et deux pour le Canada-Québec. C'est de les envoyer faire le tour du monde et d'envoyer chaque semaine un reportage de 3 minutes, 3-4 minutes en Super 8. Et les gens ont trouvé ça génial parce qu'ils voyageaient par procuration, ils découvraient des regards aussi, des regards de ces jeunes qui découvraient l'Indonésie, qui découvraient le Japon, qui découvraient la Thaïlande,
qui choisissaient, vous choisissiez votre itinéraire?
Oui, ouais. Tout à fait. Moi j'ai fait un itinéraire, ça fait une vingtaine de pays. Hein. J'avais des envies, je suis allé à New York, j'avais envie de découvrir le Brésil, le Chili, l'île de Pâques, l'Australie, Sydney... Hong Kong, j'ai un pote, Jacques Briot, qui lui a pris une carte du monde, des fléchettes, et puis tout ce qui n'entrait pas dans le bleu et dans le monde de soviétique, je dirais, hein, voilà. Parce que c'était compliqué d'y aller. Et ben, il le notait et il faisait son tour du monde comme ça.
Bon, vous l'avez vu changer ce monde. Hein. Je m'en souviens très bien, comme tout le monde. Hein. Vous l'avez dit, il y avait peu de chaînes à l'époque. On n'avait pas le choix. Et puis, alors c'est peut-être la nostalgie de vieux, hein, mais on peut se dire que c'était pas mal de pas avoir le choix finalement, parce que on avait comme ça des choses qui liaient aussi. Hein. Les gens pouvaient en parler après. Mais je me souviens de ça aussi comme d'une découverte qui a peut-être aussi donné un petit déclic à ma carrière future. Comment vous voyez évoluer justement un monde où on allait, c'était presque post-68 tard cette émission, quoi. On allait sac au dos, dire bonjour à des gens dans des pays, dans des continents, dans des cultures diverses, et ça se passait plutôt très bien. Alors c'était peut-être encore la fin de l'Empire occidental, mais c'était bon enfant et c'était plutôt positif, quoi. Il me semble que voilà, une émission comme ça aujourd'hui, ça devient beaucoup plus âpre. Hein, ça existe. Hein,
Bah, je pense que déjà on nous reprocherait de prendre l'avion, forcément, parce que moi j'ai fait une vingtaine de pays, le billet d'Air France qu'on avait,
c'était un des
partenaires qui offrait le billet, on partait avec le billet complet, il devait faire 15 cm de haut le billet, puis on enlevait chaque fois une couche. Donc
l'itinéraire était décidé dès le départ.
On était obligé, ouais, ça c'était...
On ne pouvait pas se dire, quand on était à Zanzibar, tiens j'irai bien...
Non, on ne pouvait pas changer, ouais. Non. Mais qu'est-ce que je vous dirais? Il y avait cet aspect-là, hein, voyager en avion, c'était une chance à l'époque. Aujourd'hui c'est presque, non pas une honte, mais on est sensibilisé à la problématique de l'environnement. Ça c'est une des grosses différences. Et puis je pense que à l'époque, mais ça touche le journalisme aussi, hein, à l'époque il n'y avait pas tous ces chargés de communication. Nous on arrivait à Jakarta, on essayait d'aller voir le chef de la police et puis on essayait de l'interviewer sur place. Aujourd'hui il faudrait passer par un chef de communication, ça aurait été l'enfer.
Par les ambassades, etc.
Ouais, exactement.
Ouais, bon, ça le monde a changé, c'était un peu une de mes questions aussi. Vous êtes à la retraite depuis quelques semaines je crois maintenant.
Exact.
Après une longue carrière dans l'audiovisuel public, ce métier de journaliste aujourd'hui, vous avez parlé des communicants, on peut aussi parler d'une désaffection, hein, du public à l'égard de l'information. Alors il y a eu l'épisode Covid, mais ça date pas de là, c'est plus profond, c'est plus ancien. Comment vous voyez ça?
C'est vrai qu'on sent une méfiance. Je trouve ça dommage personnellement, cette méfiance, parce que moi personnellement je ne crois pas à l'objectivité. Je crois à l'honnêteté. Je ne peux pas dire là j'ai été complètement objectif, mais je peux dire là franchement j'ai été au plus près de ce que je crois être la réalité de ce sujet-là. Alors bon, y a autant de journalistes qu'il y a de bouchers différents, il y a des bons, il y a des mauvais. Je ne sais pas à quoi c'est dû cette méfiance.
Il y a aussi des supports qui ont changé, une dilution de l'information, une impression qu'on peut faire de l'info une fois qu'on a un smartphone et un avis sur la question. C'est très compliqué, hein. Moi je n'ai pas de solution, je ne vous en demande pas. C'est très compliqué de voir comment on peut mettre en valeur, sauver d'une certaine façon cette profession aujourd'hui.
peut-être que le fait que sur les réseaux sociaux maintenant, ils se disent aussi pas mal de bêtises. Peut-être que les gens petit à petit vont faire la part des choses, mais personne n'est parfait. Je ne connais aucun journaliste parfait. J'ai pas de solution par rapport à ça. Je trouve juste dommage.
Ouais, c'est vrai. Bon, j'en viens à vous un peu, à vos origines dans le Chablais. On arrive à la fin de cette première partie gentiment. On va parler de votre livre évidemment dans la deuxième. Mais vous êtes lausannois aujourd'hui. Vous avez fait votre carrière. Alors, c'est la Suisse romande, hein, la radio-télévision suisse, bien sûr. Donc, vous avez fait cette carrière-là. Vous avez encore un lien, une attache avec le Chablais. Vous y revenez. Vous avez.
Oui, mon frère a toujours sa boucherie. Il a plus le magasin, mais il produit encore des pâtés, des saucissons. Il fait les marchés. Je vais souvent voir mon frère et puis je vais au Creuset parce que les Creusets c'est toute mon enfance, c'était le chalet du ski club de Villeneuve, donc je viens encore beaucoup dans la région, j'aime beaucoup le Chablais, j'aime beaucoup la Riviera, j'ai l'impression de rentrer chez moi quand je suis à Lausanne et que je viens ici. Quant à Chèbre, je vois le lac et puis l'ouverture sur le Valais au fond.
Se dessiner une sorte
Riviera.
D'autres météos aussi. Hein.
Exactement.
Parfois. Ouais.
Alors, exactement.
Bon, Raphaël Guillet, on va parler de ce livre, Un arrière-goût amer. Bah, le lien avec le Chablais, c'est aussi le nom de famille de votre inspectrice. Hein. C'est le troisième opus qui met en scène cette inspectrice Alice Gignier.
Oui,
ça nous amène dans les Alpes vaudoises, bien
exactement,
sûr.
Exactement. Ouais. Elle a grandi au col des Mosses, dans une ferme. Et ça, c'est lié à ma famille. J'ai un oncle qui a un chalet d'alpage au col des Mosses. Il est fribourgeois. Il vient depuis Trévaux, dans le canton de Fribourg, chaque été, avec son bétail. C'est le fils maintenant. Mon oncle est décédé. Et j'avais vécu les débuts là-haut de son chalet d'alpage.
Là-haut des souvenirs d'enfance.
Exactement. Oh. J'aime beaucoup cette région en plus, les Mosses.
Bon, qu'est-ce qui vous a pris de vous mettre. Genre, j'ai pas lu les deux précédents. J'ai pas non plus regardé les dates de parution. Enfin, j'imagine que c'est assez récent, cette entrée en écriture. Qu'est-ce que vous avez appris ?
En fait, j'écris depuis toujours. Moi, depuis l'âge de 16 ans, j'écris mon journal. Donc, j'ai toujours aimé écrire, au point que je me demande des fois si j'écris pas cette chose-là, elle n'existera pas. Donc, c'est quelque chose de lointain. Maintenant, la fiction, c'est venu petit à petit, à force de lire. J'étais étudiant en lettres, j'ai toujours adoré ça. Et je me suis dit, il y a trop de bouquins dans les librairies, donc on va pas encombrer. Et puis, je me suis dit, mais tant pis. Moi, j'ai du plaisir à le faire, et même si c'est pas publié, j'ai du plaisir à inventer des personnages, à recréer de la vie en fait. Et puis bon, bah, finalement j'ai été publié, c'est très bien.
Allez, c'est aux éditions Favre dans la collection Trilaire, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.